Loué soit et remercié soit le Seigneur, nous sommes remerciés soit le Seigneur, nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir nous réunir pour le glorifier, pour écouter sa parole, pour nous plonger dans ce qu'il a fait pour nous. Ce jour est en effet un jour particulier, un jour de commémoration de ce qui s'est passé à Golgotha, le grand jour de la réconciliation de Dieu avec l'humanité. Le grand jour de la rédemption, du pardon, de la grâce. Et depuis ce temps-là, c'est le jour du salut et le temps de la grâce. Depuis le moment où notre Seigneur mourut à Golgotha, le jour du salut et le temps de la grâce ont commencé. Et ils prendront fin, ou alors, et il prendra fin lorsqu'il reviendra pour prendre les siens auprès de lui dans la gloire, ceux à qui il a pu faire grâce et qui ont accepté son salut. Alors ce jour prendra fin. Et nous savons que nous sommes très proches de la fin de ce jour. Mais il y a encore le temps de la grâce. C'est encore le temps de la grâce. Il y a encore la réconciliation. Il y a encore la rédemption. Il y a encore le salut pour tous ceux qui viennent au Seigneur. Avant que nous commencions, je voudrais vous souhaiter à tous une très cordiale bienvenue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre souhait commun que Dieu puisse utiliser ces jours pour prendre un nouveau départ, pour nous donner de nouvelles bénédictions, pour nous donner une nouvelle rencontre avec lui-même, pour que nous devenions des personnes qui n'ont pas seulement expérimenté, vécu sa présence, mais qui l'ont expérimenté lui, pas seulement sa présence, qui n'emporte pas seulement des bénédictions passagères, mais qui l'emporte avec eux, lui en tant que personne, sa nature, son amour et tout ce qu'il est. Avec l'aide de Dieu, mettons donc d'emblée sous la croix tout ce qui pourrait nous faire obstacle et faisons confiance à lui, le crucifié, dans la foi qu'il a remporté la victoire. Pas qu'il remportera maintenant la victoire, mais qu'il a déjà accordé la victoire. Il a remporté et il a donné. Déjà, sur la croix à Golgotha, il a dit, c'est accompli. Il s'est exclamé, tout est accompli. Et Paul écrit aux Corinthiens, il n'est pas encore manifesté que tous les ennemis ont été mis sous son marchepied, mais ils sont vaincus. Bien que chaque pas que nous faisons avec le Seigneur soit un pas de foi, tout le chemin est un combat de foi. Mais sans combat, pas de victoire. Et à moins que nous ne persévérions jusqu'à la fin, c'est seulement alors que nous serons couronnés. Au moment où Dieu a révélé sa grâce par l'acte de rédemption, tous ceux qui acceptent le pardon et trouvent le salut en Christ, tous ceux-là ont été enveloppés dans la grâce de Dieu. En tant que petit tes troupes. Nous nous efforçons ces jours-ci non seulement d'entendre la parole de Dieu, donc pas seulement cela, mais aussi d'expérimenter Dieu personnellement, sous l'écoute de sa parole, de recevoir quelque chose de Dieu, de durable. Et comme je l'ai exposé dans ma dernière lettre circulaire à propos du droit d'aînesse, le droit du premier-né, si Dieu pouvait nous donner en ces jours le premier don, qui est le Saint-Esprit, comme il l'a fait pour nos frères et sœurs au commencement. Que la Pentecôte vienne sur nous pendant la Pâque. On dit parfois dans le langage populaire, voilà ce que je ferai si Pâques et la Pentecôte tombent le même jour. Si la Pâque et la Pentecôte tombent le même jour. On veut dire par là que cela n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Comme ça dans le langage populaire. Mais avec Dieu, tout est possible. Dieu peut agir selon notre foi et pas autrement. Pas autrement. Chaque fois que Dieu s'est révélé à un homme, c'est dans les limites, ça a été dans les limites du cadre de sa foi fondée sur la promesse que Dieu avait faite. Et si en ces jours, nous nous laissons vraiment unir sur la tête Jésus-Christ, sur lui la tête Jésus-Christ, et si nous avons comme un seul cœur et une seule âme, le même objectif, hein, à savoir expérimenter Dieu véritablement. Et si nous le prions d'un seul cœur, pas pour cent choses, mais pour une seule chose, avec détermination, dans la foi et la confiance. Je l'ai souvent dit, Dieu est digne de confiance. Il n'a jamais manqué à sa parole. Il ne l'a jamais annulé. Il a toujours tenu ses promesses. Et nous pouvons aussi compter sur lui ces jours-ci. En tant qu'être humain, nous n'avons peut-être pas tenu nos promesses. Mais Dieu tient ses promesses. Et si nous avons le cœur ouvert et l'esprit libre en présence de Dieu, alors quelque chose doit se produire. Car là où le Seigneur est, il se passe quelque chose. C'est là qu'il révèle et manifeste sa puissance. Mais nous l'avons déjà entendu dans la parole d'introduction, les hommes devaient invoquer le Seigneur et ce de tout leur cœur. Ils savaient que c'était notre occasion de recevoir ce dont nous avons besoin et que personne d'autre ne peut donner que le Seigneur qui passe ici en ce moment même. Et ils ont saisi l'occasion du passage de Jésus et l'ont invoqué. Et nous aussi, nous voulons saisir l'occasion à chaque service divin dans ces jours, de ces jours, et invoquer le Seigneur, mais avec foi, dans la foi. Chaque fois que des gens sont venus à Jésus, ils ont été secourus, aidés, parce qu'ils avaient entendu parler de ce qui était arrivé aux autres. Et ils venaient avec cette attitude dans leur cœur que ce qu'il a fait pour les autres, Il le fera aussi pour moi et en ma faveur. Si nous avons la même attitude et que nous disons, Seigneur, tu as rempli tant de gens de ton Saint-Esprit, tu nous rempliras aussi. Et ne laissez plus aucune place au doute, aucune place pour le doute et l'incrédulité. Si cela est vraiment ainsi, alors cela doit arriver. De même que chaque parole de l'Écriture s'est accomplie dans le Seigneur, de même chaque parole de l'Écriture qui a été donnée pour l'Église s'accomplit dans l'Église. S'accomplit dans l'Église. De même, chaque promesse que Dieu a faite à son peuple s'accomplit pour et dans chaque croyant. Mais la promesse doit être reçue tout d'abord dans la foi pour que Dieu puisse ensuite l'accomplir. Nous avons vu, d'après la parole lue, que les hommes avaient leur propre idée de ce qui devait arriver au moment où le Seigneur était entré à Jérusalem ou dans Jérusalem. C'était selon l'Écriture. Voici ton roi qui vient à toi monter sur le bas d'une ânesse. Tous étaient enthousiasmés et tout était enthousiaste. Beaucoup d'Hosanna, loué soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais ils ne comprenaient pas que ce roi ne pouvait pas établir son royaume à moins de racheter tout d'abord et de racheter des hommes et de leur donner la vie éternelle afin qu'ils puissent ensuite être dans son royaume. Son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas limité dans le temps. Son royaume est un royaume éternel. Et celui qui veut être dans le royaume éternel de Dieu doit avoir reçu la vie éternelle de son vivant pour pouvoir y vivre ensuite éternellement. Et ils n'ont pas compris que ce roi devait d'abord venir dans l'humilité pour donner sa vie en expiation, pour faire le début de son royaume. Il pensait que maintenant il allait établir son royaume et qu'il allait régner et qu'ils allaient régner avec lui. Le temps vient où nous régnerons avec lui. Le temps vient et nous lisons dans Apocalypse chapitre 11, verset 15. Maintenant le règne, la domination et la puissance sont venus à notre Seigneur et il a commencé à régner. Tout cela dans son ordre déterminé, au temps déterminé. Et pourquoi les Juifs étaient-ils déçus? Parce que leur accomplissement, ou ce qu'ils pensaient devoir être accompli, de la manière dont ils le pensaient, ne s'est pas produit. C'est pourquoi ils étaient si déçus. Au moment où ils pensaient que tout ce que nous attendions allait se produire, l'Hosanna a retenti. Et à partir de ce dimanche des rameaux, ce n'est pas l'établissement du royaume qui a commencé, mais le chemin qui mène à Golgotha en passant par Gethsémani. Et cela était inconcevable pour eux. Leur roi, qui selon les Écritures, entre dans la ville sur le bas d'une ânesse. Tout est plein d'enthousiasme. Les branches sont coupées des arbres. Les manteaux sont jetés dans la rue. Hosanna à celui qui vient. Et celui qui est venu n'est pas venu pour établir un royaume sans avoir des hommes qui y seraient alors dans ce royaume. Non, il est venu pour accomplir la rédemption, pour assurer que des gens seraient aussi dans ce royaume éternel de Dieu. Mais vous savez, cela a eu pour conséquence lorsque leur présentation, leur imagination a conduit à une telle déception que l'enthousiasme autour de l'Hosanna et de tout ce qui était parmi eux s'est transformé en son contraire quelques jours plus tard, et cela seulement quelques jours plus tard. Et on a crié alors, crucifiez-le, crucifiez-le. Que s'était-il passé? Ils avaient vu un accomplissement partiel et s'attendaient à ce que le reste soit accompli, alors que le temps n'était pas encore venu. Et parce que leurs attentes n'ont pas été satisfaites, l'ensemble de l'image et de l'attitude s'est tourné vers celui dont ils avaient tout espéré. Et ils ont dit en conclusion, nous pensions qu'il allait racheter Israël. Il a racheté Israël, mais d'une toute autre manière qu'il le pensait. Il pensait qu'il rachèterait par l'épée, qu'il ferait le ménage parmi les ennemis, qu'il accomplirait une libération extérieure et qu'il établirait un royaume, ou bien alors son royaume. Mais s'ils avaient bien lu en tant que juifs, il y a déjà une parole très significative dans le prophète Zacharie, où il est question de l'alliance de sang selon laquelle le Seigneur conduira les siens à la liberté comme des captifs à cause de l'alliance de sang. Zacharie chapitre 9, verset 11. Pour toi aussi, en ce qui te concerne à cause de l'alliance de sang que je conclue avec toi, je libérerai tes captifs et je les ferai sortir de la fosse sans eau. Ce n'était pas seulement une alliance, c'était une alliance par le sang de l'agneau, une réconciliation, non pas en parole, mais en fait, en action, en acte, un pardon et une rédemption, pas seulement comme une promesse, mais comme réalité. Et si nous lisons quelques-unes des paroles de l'Ancien Testament décrites, qui décrivent notre Seigneur dans sa passion, dans ses souffrances, nous pensons au psaume 22, ainsi qu'à l'un des psaumes les plus puissants qui parle des souffrances du Christ. Au verset 2, il est dit tout de suite. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, loin de mon secours, restent les paroles de ma plainte. Mon Dieu, Je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et le repos ne m'est pas accordé. Au verset 17, il est écrit, « Oh, des chiens m'entourent tout autour. Une meute de malfaiteurs me cerne. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os, mais ils me regardent et se rassasient à la vue. Ils partagent mes vêtements entre eux et tirent au sort mon vêtement. » Si nous lisons les prophéties de l'Ancien Testament et que nous partons du principe que les Juifs attendaient le Messie et que les Écritures étaient à leur disposition, nous penserions qu'ils auraient dû reconnaître et voir les détails de l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais Dieu a aveuglé leurs yeux, comme c'est écrit dans le prophète Ésaïe, afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux et qu'ils n'entendent pas de leurs oreilles. Mais ensuite, dans Ésaïe 52, les derniers versets, et aussi le chapitre 53, ici, les choses ne sont pas seulement mises en évidence, mais elles sont dites à l'avance. Et c'est-à-dire ce qu'il en sera et comment est-ce que cela s'accomplira. Dans Ésaïe 52, au verset 13, il est écrit, « Sachez que mon serviteur prospérera, il montera, il sera élevé, il se tiendra exalté. » Comme beaucoup ont été frappés de stupeur à son sujet ainsi défiguré, son aspect ne ressemblait plus à celui d'un homme. Et sa forme n'était plus celle des enfants des hommes. De même, il émerveillera beaucoup de peuples. Et les rois fermeront la bouche à son sujet, car ce qu'on ne leur avait jamais raconté, ils le voient. Et ce dont ils n'avaient jamais entendu parler, ils le perçoivent. Déjà dans ces quelques phrases, deux choses sont exprimées. Tout d'abord, son exaltation, son élévation, comme nous l'avons lu. Il s'élèvera et sera exalté et se tiendra très haut. Et juste après, il est écrit que beaucoup seront scandalisés par lui parce que son apparence ne ressemblera plus à celle d'un homme. Dans un seul verset, il est exalté, élevé au-dessus de tout. Et si nous lisons la lettre aux Philippiens, il est écrit que après avoir apporté la paix sur la croix, il a été élevé au-dessus de tout et a reçu un nom supérieur à tout autre nom. Mais avant que cela n'arrive, il fallait passer par le dépouillement, par le chemin de Gethsémané jusqu'à Golgotha. Puis au chapitre 53, Ésaïe 53, verset 1, nous entendons des paroles étranges. Qui a cru à notre message et à qui le bras de l'Éternel s'est-il manifesté? Au milieu de la description de ce qui allait arriver à Jésus-Christ, notre Seigneur, il est dit, qui a donné foi à notre proclamation ou à notre message? Uniquement ceux qui ont été prédestinés à être des fils et des filles de Dieu avant la fondation du monde, qui ont mis de côté leurs propres idées, leurs propres imaginations pour croire à la prédication, leurs propres pensées pour croire à la prédication de la parole de Dieu, car la foi ne vient pas de l'interprétation, la foi vient de la prédication et la prédication vient de la parole de Dieu. Car si la foi, si la prédication vient de la parole de Dieu, alors et qu'elle balaie nos idées et nos pensées à droite et à gauche, remercions Dieu pour cela. Car il ne changera jamais son plan. Et il n'a d'ailleurs demandé à aucun d'entre nous ce qu'il devait faire. Ici, dans cette parole, le plan de salut, le début avec Jésus-Christ est clairement exprimé. Maintenant, il est écrit au verset 2, Ésaïe 53, verset 2, il grandissait devant lui comme un rejeton, comme une racine de terre sèche. Il n'avait ni forme, ni beauté, pour que nous le regardions, ni apparence, pour que nous prenions plaisir en lui. Non, il était méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la maladie. Oui, comme celui devant qui on se voile la face, méprisé, si bien que nous le regardions comme moins que rien. Arrêtons-nous un peu ici. Lui, le roi des rois, qui entre dans la ville de Jérusalem et que tous s'écrient « Hosanna » et sont enthousiasmés. Et il est dit de lui qu'il n'avait ni apparence, ni beauté, ni forme pour qu'on le désire, pour qu'on ait envie de lui, pour qu'on le... Il était quelqu'un de méprisé. Ils se sont moqués de lui et ils l'ont évité. Et vous savez ce que l'on peut ressentir lorsqu'on est évité? Donc, abandonné. Et vous savez ce que l'on peut ressentir quand on est abandonné. Notre Seigneur a dû suivre ce chemin. Incompréhensible pour nous. Incompréhensible. Mais il devait prendre ce chemin. Lisons la suite. Ésaïe 53, verset 4. Pourtant, c'était nos maladies qu'il a portées et nos douleurs qu'il a pris sur lui pendant, alors que nous le pensions puni, frappé de Dieu et martyrisé. Et pourtant, il était blessé à cause de nos transgressions et brisé à cause de nos fautes et nos péchés. Le châtiment était mis sur lui afin de nous donner la paix. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il est allé ce chemin pour toi et pour moi. Il a suivi pour toi et pour moi. Il s'est chargé de ta douleur et de la mienne. De ta maladie et de la mienne. De ta faute et de la mienne. De ton péché et du mien. Et il l'a été brisé et frappé à cause de notre péché. Un homme de douleur. Mais il y est allé. Et comme il est écrit, le châtiment était placé sur lui. Une loi est faite pour établir le châtiment d'une faute. Et celui qui a donné la loi lui-même sur le mont Sinaï, a pris sur lui le châtiment et est allé sur la croix, brisé et martyrisé à cause de notre faute et de notre péché, et pour que le salut et la guérison nous soient accordés. Qui peut le croire? Qui peut le saisir? Nous sommes ici aujourd'hui et il nous semble parfois que le salut est une chose qui va de soi. Le salut a coûté cher à notre Seigneur. Il a, n'est-ce pas, appelé à l'existence toute la création par sa parole toute puissante par sa parole créatrice. Mais lorsqu'il s'agissait de ton salut et du mien, il est sorti de son corps spirituel dans lequel il ne pouvait pas souffrir, dans lequel il ne pouvait pas mourir, dans ce corps spirituel. Et il s'est fait homme. La parole s'est faite chair et est habitée parmi nous. Il s'est fait homme à cause des hommes. Pour prendre sur lui toute la peine, le châtiment qui serait infligé pour tous les péchés commis par l'humanité entière. Lorsqu'un individu est amené au tribunal et qu'il reçoit déjà son châtiment sur terre, c'est une chose dure et difficile, mais pensez si 100 sont condamnés. Pensez si 1000 sont condamnés. Si 1 million est condamné. Oui, si 3 trillions ou toute l'humanité a été soumise au jugement. Et ce jugement, nous entendons parfois dire qu'il y a eu un jugement, le châtiment est tel ou tel. Ici, le Seigneur a porté le châtiment de chacun d'entre nous qui devait nous être infligé Mais ce châtiment l'a frappé. Le châtiment qui aurait dû te frapper, toi et moi. Ainsi certain que nous soyons ici. Mais il l'a frappé. Il a pris sur lui pour que nous sortions libres. Et c'est là que commence notre gratitude, notre reconnaissance, que commence notre adoration. C'est là que nous comprenons ce que signifie la grâce. On parle de grâce sans avoir entendu parler de la condamnation. Si l'on entendait sur terre un homme dire « J'ai été gracié », alors nous saurions tous très bien qu'il a quelque chose à se reprocher. Il a été au tribunal. Il a été condamné. Il a fait de la prison. Il a été en prison. Si l'on entendait soudain quelqu'un dire qu'il a été gracié, nous saurions tous exactement de quoi cette personne parle. Nous saurions qu'il a commis un délit, que la loi l'a condamné et qu'il a été ensuite gracié. C'est ainsi que nous devons voir les choses. La loi de Dieu nous a tous condamnés. Mais par la grâce de Dieu, nous avons été acquittés, déclarés libres. Nous avons été graciés. Et c'est pourquoi nous nous glorifions de la grâce de notre Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous poursuivons la lecture du verset 5, Ésaïe 53. Et pourtant, il était blessé à cause de nos transgressions et brisé à cause de nos fautes. Le châtiment était mis sur lui afin de nous donner la paix. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Chacun de nous s'est tourné vers sa propre voie. Mais ensuite est venu celui qui pouvait dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Puis il est venu se mettre en travers de notre chemin pour que nous le suivions. Et comme il est écrit ici, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Frères et sœurs, que cette parole nous inonde nouvellement le cœur afin que nous ne nous tournions plus vers nos propres voies, mais vers la voix de Dieu et que nous reconnaissions sa parole et son accomplissement, ses promesses en ce temps. Il est dit ici, du verset 7, quand il a été maltraité, il s'y est livré de bon cœur. Il n'a pas ouvert la bouche comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir, comme la brebis qui reste muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Verset 8, il a été soustrait à la tribulation et au jugement. Mais qui, parmi ses contemporains, a considéré qu'il était retranché de la terre des vivants. Mais qui parmi ses contemporains a considéré qu'il devait passer par ce chemin, qu'il devait suivre cette voie? Ils pouvaient tous le juger, ils pouvaient tous le condamner. Ils l'ont mal compris. Et c'est pourquoi il est écrit ici, qui parmi ses contemporains l'a considéré, a pensé à cela. En d'autres termes, qui parmi ses contemporains avait la compréhension divine de ce qui devait se passer à l'époque autrefois, et cela conformément au plan de salut de Dieu. Nous vivons dans un temps prophétique où beaucoup de choses doivent s'accomplir et nous sommes presque obligés de nous poser la question qui parmi nos contemporains se souvient que la parole de Dieu doit s'accomplir aussi de toutes les manières dans cette époque dans laquelle nous sommes. En ce qui concerne notre Seigneur, ce n'est pas seulement la partie élevée et sublime qui s'est accomplie en lui, telle que nous l'avons lu, mais l'humiliation, le fait d'être ridiculisé et bafoué aussi a eu sa place. Chaque chose en son temps et dans le contexte juste. La dernière partie du verset 8. À cause de l'iniquité de mon peuple, le châtiment l'a atteint. On lui assigna son sépulcre avec les violents et sa tombe avec les coupables. Bien qu'il n'eût commis aucune violence et qu'il n'eût aucune fraude dans sa bouche, mais il a plu à l'Éternel de le meurtrir par la maladie quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation pour le péché. Il verra une semence et vivra de longs jours, et la volonté de l'Éternel dans le plan du salut s'accomplira par lui. Ce verset est également un verset très particulier. Pas seulement parce qu'il est écrit ici, mais aussi parce que nous comprenons de quelle manière cela est mis à exécution. Nous lisons ici, à exécution. Mais il a plu à l'Éternel, il relut le début du verset 10, de le meurtrir par la maladie. Quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation pour le péché, et il verra une semence et vivra de longs jours. Et la volonté de l'Éternel dans le plan du salut s'accomplira par lui. De même que sur terre, terrestrement, nous venons tous du premier Adam, de même spirituellement, nous venons de Jésus-Christ notre Seigneur. Il est le premier-né parmi de nombreux frères. La semence de Dieu a commencé avec lui. Et c'est pourquoi il est écrit, Christ est le commencement de la création de Dieu. Non pas le commencement de la création de l'univers, ou alors de la terre, ou du ciel, mais le commencement de la création de Dieu. Le principe le début. De même qu'il a été engendré par l'Esprit, de même nous sommes engendrés par l'Esprit de Dieu. De même qu'il s'est fait chair en tant que la parole, c'est ainsi qu'il faut que la parole se fasse chair à travers l'Église, c'est-à-dire qu'elle puisse trouver son accomplissement et sa finalité dans l'Église. L'Église est la continuation de ce que Christ, notre Seigneur, a commencé. Ou alors la continuité de ce que Christ, notre Seigneur, a commencé. S'il verra la semence et vivra, s'il verra une semence et vivra de longs jours, c'est-à-dire vivre continuellement. Alors, nous sommes deux choses. Une fois la semence et une fois la vie. Il ne vivra qu'en ceux qui sont la semence. Et nous savons que dès le commencement. Donc, il ne vivra qu'en ceux qui sont la semence. Et nous savons que dès le début, il y a eu deux semences différentes. Mais ici, il s'agit de la semence divine dans laquelle Christ continue lui-même à vivre en tant que tête de son corps, imprégnant ses membres de sa vie jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la perfection. Et depuis qu'il a donné sa vie en expiation, il continue à vivre dans sa semence qui a reçu et accepté la réconciliation. Je peux vous dire ce que dit l'Écriture, c'est par la foi qu'il habite dans ton cœur et dans le mien. C'est ce que disent les Écritures. Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il a fait sa demeure dans son Église qui est le corps. Les premiers-nés qui sont sa semence divine et qui reçoivent aussi en eux la semence de sa parole et aucune interprétation. Nous savons que dans Matthieu 13, le Seigneur a prononcé cette parabole, dont celle du semeur. Et il y avait deux hommes qui ont semé. L'un était le Seigneur et sa semence sont les fils ou les enfants du royaume de Dieu. Ça, c'est la semence divine par laquelle, ou bien alors dans laquelle Dieu se vit sur cette terre, ou alors par laquelle Dieu se perpétue sur la terre, par laquelle il met sa parole et sa volonté à exécution. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, c'est pour faire ta volonté que je suis venu, ô Dieu. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Une parole tirée de l'Ancien Testament. Nous lisons ici, au verset 10, la deuxième partie, il verra une semence et vivra de longs jours. Et la volonté de l'Éternel s'accomplira par lui. Par lui, s'accomplira par lui. Nous n'avons qu'un seul désir en ces tout derniers jours. C'est que réellement, la volonté de Dieu s'accomplisse dans la semence divine et que nous puissions dire chacun de tout notre cœur devant notre Dieu. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pas ce que je veux et pas comme je le veux. On peut parfois le dire, mais tout le cœur peut ne pas être dans les mots que l'on prononce. Mais si Dieu nous fait grâce, nous pourrons le faire de tout notre cœur et dire simplement, Seigneur, que ta volonté soit faite par ton Église, par ta semence par les premiers-nés, par les enfants de la promesse. C'est de cette manière, c'est seulement par eux que les promesses pourront s'accomplir. De même que Jésus-Christ était la semence promise de la femme qui écraserait la tête du serpent et que la volonté de Dieu s'est réalisée par son intermédiaire. De même, l'Église a été familiarisée avec les promesses de Dieu. Et comme Paul l'explique dans l'Épître aux Galates, nous sommes enfants de la promesse à la manière d'Isaac. Isaac a été engendré humainement, mais il avait une promesse divine. Cela aussi, nous devons le comprendre. Nous sommes peut-être encore dans cette chair, mais nous n'avons pas seulement été engendrés humainement, nous avons aussi été engendrés par l'Esprit de Dieu et sommes devenus ainsi les premiers-nés de Dieu. Nous sommes devenus sa semence en ce temps, afin que la volonté de Dieu soit faite par nous. Non pas pour que tu vives pour toi et moi pour moi, pour que tu fasses ta volonté et moi la mienne, mais nous devons comprendre que nous devons être unis et que, oui, unis sous une même tête, comme membres du corps de Jésus-Christ, réunis, joints ensemble, dans un seul corps, pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir par nous. Elle ne se fera que dans la semence divine. La volonté de Dieu. Et nous l'avons déjà mentionné hier soir lors de notre réunion de prière. Dans Genèse 3, après la chute de l'homme, le Seigneur Dieu a dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi, ta postérité et sa postérité. C'était une inimitié qui avait été établie entre ces deux semences. Je vous le dis, si nous sommes la semence de Dieu en ce temps, Dieu devra faire en sorte que son programme s'accomplisse par sa semence. Nous lisons ici le mot « semence ». Son programme s'accomplira par sa semence. Il n'aura pas d'autre possibilité. De même qu'il a accompli en Christ ce qui avait été prédit sur lui par les prophètes, de même, il accomplira par l'Église ce qui a été promis et prédit pour l'Église. Et là, toute la foule peut bien crier en un seul jour « Hosanna !» et un autre jour « Crucifiez-le !» Cela n'a aucune importance. Dans les deux parties, il y a l'accomplissement de la parole de Dieu. Car les deux parties ont été mises par écrit. Heureux les hommes qui ont eu la grâce de discerner à cette époque. De discerner autrefois ces deux. Ici, la parole de Dieu s'accomplit d'une certaine manière, là, d'une autre. Mais les deux sont l'accomplissement de cette écriture. Ce n'est qu'alors que nous tiendrons la parole de Dieu dans notre main comme une boussole et que nous saurons dans quelle direction aller. Car tout est vraiment bouleversé. Les gens ne savent plus où ils en sont. Ils désespèrent et se laissent entraîner sur leur propre chemin. La parole de Dieu ne s'accomplit pas seulement dans le bon sens. La parole de Dieu s'accomplit dans tous les domaines. pas seulement dans un domaine, mais dans tous les domaines. Nous pourrions parfois penser qu'il serait préférable que tout ce qui est bon s'accomplisse. Mais n'est-il pas écrit? Un peuple sera contre un autre, guerre, tremblement de terre, famine, temps coûteux. N'est-il pas écrit que l'amour se refroidira chez beaucoup? N'est-il pas écrit que tout cela arriverait en tant qu'être humain? Nous avons toujours tendance à choisir la bonne partie et à passer à côté de l'autre. Il n'y a pas de passer à côté. Sur la voie de Dieu, sur le chemin de Dieu, il n'y a pas de passage à côté de ce qui a été, à côté de ce qui est à vivre sur notre voie et dans les choses par lesquelles nous devons passer sur notre chemin et de ce qui est destiné à être vécu sur cette voie de Dieu par nous. Il est dit ici au verset 11 d'Ésaïe 53, verset 11, « À la suite de son angoisse de l'âme, il verra du fruit et en sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur, comme juste, aidera la multitude à être justifiée en se chargeant et en portant sur lui leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai pour héritage cette grande multitude et il partagera le butin avec les forts. En récompense du fait qu'il a donné sa vie dans la mort et qu'il a été compté parmi les transgresseurs, alors qu'il a porté le péché de cette multitude et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Cette parole fait également partie de l'ensemble du chapitre qui a décrit par avance le chemin de souffrance de notre Seigneur. Ici, les choses sont présentées comme si elles étaient déjà arrivées, du fait qu'il a donné sa vie dans la mort et qu'il a été compté parmi les transgresseurs alors qu'il a porté le péché de cette multitude, etc. Vous voyez que la prophétie biblique ne dépend ni du passé ni de l'avenir. La prophétie biblique s'accomplit lorsque le moment est venu où quelque chose de précis doit être accompli selon le plan de salut de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, nous voulons, parce que le jour l'exige en particulier, et nous le faisons de tout notre cœur, lire encore quelques versets. Matthieu, chapitre 26, du verset 26. Or, pendant le repas, Jésus prit le pain, prononça la louange à Dieu, rompit le pain et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe, rendit grâce et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour la multitude en rémission des péchés. Mais je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Puis après avoir chanté les louanges, ils sortirent de la ville pour se rendre au mont des Oliviers. En disant cela, Jésus leur dit, « Vous vous offusquerez tous de moi cette nuit, Car il est écrit, j'abattrai le berger et les brebis du troupeau se disperseront. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Nous pourrions continuer à lire comment il est allé à Gethsémani, à lutter, à supplier et à dire, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et c'était la volonté de Dieu, justement, de le frapper de maladie quand il donnerait sa vie en expiation. Et frères et sœurs, c'est justement parce qu'il a donné sa vie en expiation, c'est-à-dire pour la réconciliation, que nous avons été réconciliés avec Dieu. Et Paul, écrit aux Corinthiens, va même jusqu'à dire, nous disons, laissez-vous réconcilier avec Dieu, soyez réconciliés avec Dieu. Il dit qu'il nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous ne parlons pas seulement de la réconciliation, mais nous la transmettons comme une offre divine de Dieu. Et lorsque le Seigneur, divine de grâce de Dieu, et lorsque le Seigneur a dit à Jean, dans Jean 20, à ceux qu'il avait envoyés, celui à qui vous remettrez les péchés, ils lui seront remis. Alors il ne voulait certainement pas dire que quiconque était, il ne voulait pas parler à dire qu'ils étaient autorisés à agir humainement en parlant pour pardonner à un autre. Non, ce n'est pas possible. Mais si nous avons reçu le ministère de la réconciliation, alors nous pouvons dire en toute certitude aux personnes qui viennent à la foi, qui croient à la prédication en Jésus-Christ, que leurs fautes et leurs péchés sont pardonnés. Et l'évangile devient alors un message de joie, un joyeux message, une bonne nouvelle. D'une part, puni, frappé dans la présence de Dieu, étant convaincu du péché que nous ne pouvons pas nous tenir ainsi devant lui, mais d'autre part, la main transpercée du Seigneur se tend vers nous. Et il dit, je t'ai toujours aimé, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. N'est-ce pas là un magnifique message? Oh, comme un amen et un alléluia, une louange, une adoration devrait remplir nos cœurs. Ou bien, sommes-nous déçus par le Seigneur? Les Saintes Écritures disent, aucun de ceux qui placent leur confiance en lui ne seront déçus. Personne. Aucun. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, nous nous assurons alors ainsi de ne pas être déçus. Il se peut que si nous avons placé notre confiance en nous-mêmes ou en d'autres personnes, que nous soyons déçus. Mais alors, c'est uniquement pour comprendre que nous ne pouvons placer notre confiance qu'en Dieu. Vraiment que dans l'éternel Dieu, dans le Seigneur Dieu, nous chantons en chœur, Jésus ne nous déçoit jamais. Jésus ne nous déçoit jamais. Peut-être diras-tu, j'ai prié pour ceci et cela, j'ai demandé ceci et cela, je l'ai mis devant Dieu et je ne l'ai pas reçu. Ne le prends pas comme une déception ou un refus. Dieu sait mieux que toi et moi ce qui sert à notre salut. nous avons la promesse suivante, que si nous demandons selon sa volonté, il nous le donnera. Et si nous demandons aujourd'hui, en ce lieu, en ce jour, le pardon, la grâce, la puissance du Saint-Esprit et la réalisation de ses promesses, alors nous demandons, cette prière est une demande que Dieu a déjà mise dans notre cœur et dans notre bouche. Et Jean dit qu'il écrit que lorsque nous présentons à la face de Dieu les qui sont dans sa volonté, alors il nous exauce. Ce ne sont alors pas tes souhaits ni les miens qui peuvent être très pieux. Toute prière que Dieu doit exaucer doit être une prière conforme à la parole de Dieu. Et comme nous l'avons déjà mentionné, Jean dit, c'est à cela que nous reconnaissons que Dieu nous exauce. Et si notre conscience ne nous condamne pas, et si nous présentons les demandes qui sont selon sa volonté, connaissez-vous tout ce passage de l'Écriture, il est peut-être préférable que je la cherche, cette Écriture, que je la cherche, même si je ne suis pas sûr de la trouver du premier coup. Mais on a simplement besoin de l'écho de l'Église, sinon on ne sait pas vraiment si les choses ont été reçues. Je veux dire que c'est 1 Jean chapitre 3, du verset 19. 1 Jean 3, verset 19. À ceci, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous en convaincrons nos cœurs devant lui. Que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Arrêtons-nous un instant à ce verset. Même si notre cœur nous condamne en présence de Dieu, nous ne devons pas nous arrêter là, car il est dit littéralement, au verset 20, que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et c'est toute chose. Toi et moi, nous ne connaissons que très très peu de choses. Mais Dieu connaît tout. Et même si notre cœur nous condamne légitimement en présence de Dieu, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît tout. Maintenant, le verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous possédons de la joie ou alors une assurance joyeuse devant Dieu. Et tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Et celui qui garde ses commandements demeure en communion avec lui et lui avec lui. Et c'est à cela que nous reconnaissons qu'il demeure en communion avec nous à l'esprit qu'il nous a donné. C'est aussi une parole glorieuse. C'est aussi une parole merveilleuse. Mais ce n'est pas la parole que je voulais lire, mais je suis en fait très content de l'avoir lue. Tournez juste une page au chapitre 5. Il est écrit au verset 13. 1 Jean 5, verset 13 maintenant. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez reçu, que vous avez la vie éternelle. Et voici la joyeuse assurance que nous avons auprès de lui, que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il exauce toutes nos demandes, nous savons aussi que celles que nous lui avons présentées nous ont déjà été accordées. N'est-ce pas une parole glorieuse? Que les demandes que nous avons présentées devant lui nous sont déjà accordées. C'est presque un paradoxe. Nous dirions dans notre langage que les demandes que nous avons présentées ou que nous présenterons devant lui. Mais il est dit ici les requêtes, les prières, les demandes que nous avons présentées devant lui selon sa volonté, il nous les a déjà accordées. Il ne peut en être autrement que Dieu. Il ne peut en être autrement. Si Dieu ne met pas dans nos cœurs une foi inébranlable, ancrée dans sa parole et dans ses promesses, il ne sert à rien d'attendre des choses de Dieu et de demander quelque chose dont on ne sait pas si Dieu va le donner ou non. Nous devons savoir que nous présentons ces demandes devant Dieu, devant lui. Et ce sont des demandes selon sa volonté, et donc nous les lui présentons et il nous exauce par grâce. Il y a un passage dans l'Épître aux Romains qui dit « Nous ne savons pas ce que nous devons prier selon la volonté de Dieu à ce moment-là. C'est alors que l'Esprit vient à notre secours. » Dans Romains chapitre 8, du verset 26. Mais l'Esprit vient aussi, Romains 8, verset 26, au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons que prier selon les besoins du moment. Mais parfois nous pensons le savoir. Mais en fait, nous savons seulement ce que nous savons. Mais au moment où l'Esprit nous illumine, nous éclaire et que nous recevons de Dieu dans notre cœur ce que nous devons demander, alors ce n'est plus ton savoir et le mien, ta volonté et la mienne, tes désirs et les miens. C'est alors Dieu qui peut agir dans l'Église pour mettre sur notre cœur ce qu'il veut faire, lui veut faire, pour mettre dans notre cœur ce que lui, il veut faire, afin que nous le présentions comme une prière devant sa face. Et c'est en fait de cela qu'il s'agit dans un service divin. Il ne s'agit pas seulement de nous réunir pour écouter la parole de Dieu, mais de laisser Dieu agir, de le laisser parler, de mettre de côté nos pensées réellement, et de dire, Seigneur, prends-nous tout entièrement en ta possession. Car, s'il est écrit ici, de même, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Lorsque le Seigneur a fait la promesse à Abraham, il est si bien écrit, qu'il a qu'il percevait la mortalité de son propre corps. Il ne s'en est pas caché, il n'a pas contenté de dire « Ah, je suis si vigoureux et jeune ». Non, il a enregistré les choses qui étaient là, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a ancré sa foi dans la promesse de Dieu et il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité. Il est écrit ici, « L'Esprit vient aussi au secours de notre faiblesse ». Il se peut que nous enregistrions notre faiblesse, notre incapacité, notre insuffisance, tout, entièrement. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous passons à travers. Nous allons plus loin. Et Dieu vient à notre secours. Et il est écrit, de même, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que prier selon les besoins du moment ou ce qu'il convient. Oh, nous pouvons parfois prier pour toutes sortes de choses et Dieu n'est pas dans la prière. Mais si nous disons au Seigneur, oh mon Dieu, nous allons maintenant prier, mais je ne sais pas ce que je dois demander. Je ne fais qu'enregistrer ma propre faiblesse, mon propre échec. Je perçois les choses en moi et autour de moi, mais je ne sais pas ce que je dois apporter devant ta face. Et je vous le dis, Dieu brisera tout ce que nous avons rassemblé à l'avance pour en faire une prière. Et nous n'y penserons plus du tout, mais son esprit viendra sur nous et il montera vers le... Et ce seront des prières formulées en esprit, dans l'esprit, qui monteront vers le trône de Dieu, dont nous n'aurons pas à attendre longtemps l'exaucement, car Dieu est un Dieu qui écoute, un Dieu qui parle. Et nous n'avons même pas besoin de crier aussi fort. C'est ce qu'ont fait les prêtres de Baal, car ils avaient un Dieu mort. Nous pouvons ainsi parler à notre Dieu de cœur à cœur et tout lui dire. Et il a une oreille très fine. Les prières, alors des saints, deviennent alors un encens. Puis elles s'élèvent vers le trône de Dieu. Et alors l'exaucement descend sur nous. Mais si l'Esprit doit venir à notre secours, il doit d'abord nous posséder. Il doit d'abord nous remplir. Et ensuite, il peut venir à notre secours. Après nous avoir remplis, si quelqu'un doit venir à ton secours, il doit être à portée de main. Sinon, aucune aide n'est possible. Pour pouvoir te secourir, il faut qu'il soit là. Qui te saisissent pour pouvoir te secourir. Frères et sœurs, le Seigneur veut se faire proche de nous. Il veut être à portée de main. Il veut venir à notre secours. Il ne veut pas nous laisser dans l'état où nous sommes. Et il est dit plus loin, la deuxième partie du verset 26, « Mais alors l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements ineffables. » L'Esprit de Dieu intercède pour nous. Il sait ce dont nous avons besoin. Nous réfléchissons avec l'intelligence, nous apportons quelques éléments dans la prière et le Seigneur n'y prête pas attention. Maintenant, l'Esprit intervient et nous présentons une prière inspirée devant le trône de la grâce de Dieu. Puis vient une réponse inspirée. Une prière inspirée par l'Esprit, une réponse inspirée par l'Esprit. Il ne peut en être autrement. Une prière inspirée par l'Esprit reçoit une réponse inspirée par l'Esprit. Qu'en est-il de la foi et de la mienne aujourd'hui, de ta foi et de la mienne aujourd'hui? Extérieurement, nous percevons les choses comme Abraham. Tout est mort, tout est sans espoir, tout est perdu. On pourrait presque dire d'Abraham qu'il a dépassé le temps depuis tant et tant de temps. Dieu n'est lié à aucun temps. Il peut changer les choses. Il peut arrêter le soleil. Il peut faire arrêter le soleil en un instant, jusqu'à la fin de la bataille. Dieu peut allonger les jours, il peut les raccourcir. Il est Dieu au-dessus de tout. Et dans ces heures de nos réunions dans ces jours, nous voulons honorer Dieu par la foi. Il n'y a pas d'autre possibilité d'honorer Dieu. Les Saintes Écritures le disent pourtant. Celui qui recule, celui qui se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 10, Dieu cherche des gens qui lui font confiance, qui le croient. Le verset 27 maintenant de Romains 8. Mais celui qui sonde le cœur comprend le langage de l'esprit, car l'esprit agit pour les saints, intercédant pour eux selon la volonté de Dieu. Ici nous avons. Ici nous y sommes. Dieu comprend les cœurs. Il les sonde. Et il est dit le langage de l'esprit. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le langage de l'esprit? La parole de Dieu est esprit et elle est vie. Lorsque Dieu nous parle par sa parole, ce n'est pas un discours humain. C'est alors qu'il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'esprit dit aux églises. Donc, c'est un langage de l'esprit, un discours de Dieu par sa parole, inspiré par le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes sous cette inspiration, oh, une source jaillit en chacun de nous. Nous commençons alors à louer et à exalter. Lorsque frère Branham mentionne l'histoire d'Abraham, et qu'il représente toujours de manière si imagée comment il a pris des dispositions et a dû malgré tout attendre longtemps, mais il a tenu bon. Pour quelle raison? Parce qu'il croyait Dieu. Le Seigneur avait parlé. Et je vous le dis aujourd'hui, le Seigneur avait parlé avec lui. Si nous sommes convaincus que la parole révélée de Dieu n'est pas la parole d'un homme, d'un frère Branham, mais qu'elle est la parole de Dieu, alors nous avons une ancre pour notre âme qui est aussi fermement ancrée dans la parole de Dieu que pour tous ceux à qui Dieu a parlé personnellement. C'est la même chose. Et je me demande, Dieu t'a-t-il parlé personnellement, par sa parole, révélé par le Saint-Esprit, Si oui, alors personne ne peut te l'enlever. Tu es un enfant de la promesse. Tu as le droit d'aînesse. Tu n'as donc plus besoin de prier. Il t'a été donné. Cela t'a été donné par Christ. Comme nous l'avons déjà dit hier soir, Jacob a dû user de tant de ruses, d'un tour et d'un autre pour obtenir le droit d'aînesse. Nous n'avons pas eu besoin d'en user du tout. Les Juifs qui avaient le droit d'aînesse l'ont abandonné. Et nous, les nations, avons reçu le droit d'aînesse. Les branches naturelles ont été enlevées. Et les branches sauvages ont été greffées. Mais c'est la même racine et la même vie qui viennent par ces branches. Tout est ordonné par Dieu. Non pas par moi. Et non pas de moi, mais ordonné par Dieu lui-même. Et nous avons été placés dans cette filiation, dans cette relation de fils. Et cela, cette position de fils. Et cela nous rend heureux et intérieurement. Et nous pouvons savoir que lorsque nous présentons devant la face de Dieu, dans la prière, ce n'est vraiment pas pour dire, Seigneur, fais ceci ou cela maintenant, mais tout simplement pour dire, mon Dieu, fais ce que tu as décidé de faire dans cette réunion. Seigneur, qu'as-tu voulu faire dans ma vie aujourd'hui au cours de ce service divin? Quel est le sens et le but du fait que j'ai entendu ta parole aujourd'hui devant ta face. Et au jour des apôtres, comme nous pouvons le lire, le Saint-Esprit est tombé, s'est répandu, parce que les gens ont tout simplement entendu pour la première fois. Ils l'ont entendu pour la première fois. Et dans leur cœur, il n'y avait rien d'autre que la réception. Ils avaient appuyé sur le bouton d'enregistrement et ils ont tout enregistré. Chaque mot était pour eux un message de Dieu. Et pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit s'est répandu. Le Saint-Esprit peut se répandre aujourd'hui. Oublions les choses que nous préparons ainsi dans nos prières et disons simplement, Seigneur, accorde-nous par ton esprit ce pourquoi nous devons prier maintenant. Et je suis persuadé que Dieu fera en sorte que les prières soient effectuées par son Saint-Esprit. Et au moment où c'est l'Esprit de Dieu qui pourra agir, alors les promesses s'accompliront. Et nous serons tous bénis pour avoir demandé et compris. Donc, au-dessus de tout ce que nous pourrions penser et demander, aujourd'hui encore, l'Esprit viendra au secours de notre faiblesse. Aujourd'hui encore, Dieu veut mettre dans ton cœur et dans le mien ce pourquoi nous prions. Alors, nous n'avons pas de liste de souhaits, mais nous présentons une requête devant la face de Dieu et le Seigneur. Est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Comme Dieu aimerait répondre à nos prières aujourd'hui, il aimerait le faire. Oui, comme il aimerait bénir aujourd'hui. Oh, comme il aimerait aujourd'hui accomplir ses promesses et répandre son esprit. Il veut le faire. Nous venons devant sa sainte face avec les promesses de la parole de Dieu. Il peut passer à côté de ta parole. Il peut passer à côté de ta parole et de ma parole. Mais il ne peut pas passer à côté de sa propre parole. Il est et reste lié à sa parole. Sa bouche est la bouche de la vérité éternelle. Il est vrai, véritable dans tout ce qu'il fait. Et il est plus que capable de faire ce que nous lui demandons, selon sa volonté. Amen. Levons-nous, ouvrons nos cœurs et nos bouches et venons devant la face de Dieu. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole. Ô Dieu, nous sommes des êtres humains, oublieux et faibles. Nous avons besoin de ton secours, de ton aide, mais tu viens à notre secours. Nous ne savons pas ce que nous devons prier, ô Dieu, mais toi-même ta volonté dans notre cœur, révélée par le Saint-Esprit. Mon Dieu, c'est peut-être raison que nous écoutons ta parole, que nous ne raisonnions pas intellectuellement sur les choses spirituelles, mais comme il est écrit, l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé justement par personne. Et l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Oh, viens, Esprit du Seigneur, au milieu de nous, dans nos cœurs. Sonde-moi, sonde-nous, sonde les profondeurs de la divinité et révèle la volonté de Dieu dans chaque cœur. Nous te louons et nous t'adorons. Je te rends grâce, je te remercie de ce que tu nous parle encore. Heureux celui qui ne te rejette pas, mais qui t'écoute, et cela de tout son cœur. Alléluia. À ton saint nom. Amen.